Frères et sœurs, chers amis, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, notre histoire, nous avons tous en commun quelque chose d'essentiel qui marque nos vies d'hommes et de femmes, d'enfants. C'est le fait que nous sommes le fruit de rencontres. La rencontre de nos parents d'abord, qui nous ont donné la vie, mais la rencontre aussi de tant d'hommes et de femmes qui nous ont permis de grandir, de croître. Et aujourd'hui encore, chacun d'entre nous, je l'imagine, vit de rencontres avec les autres tout au long de ses journées, des rencontres faciles, parfois plus difficiles. La rencontre est un élément essentiel et qui fait la vie. Que la rencontre soit essentielle pour vivre explique comment l'homme s'est organisé pour vivre, peu à peu, pour permettre des rencontres. Dans l'histoire, en effet, vous le savez bien, et j'imagine que cette partie de notre diocèse le montrerait aussi, peu à peu, les hommes se sont organisés afin de mieux pouvoir se rencontrer, pour échanger des idées, des paroles, des biens par le commerce. C'est peu à peu que l'on a commencé à construire des villes, des routes, l'émergence de la prospérité, le développement de la technique pour permettre de nous rencontrer aujourd'hui, non seulement physiquement, comme nous le faisons heureusement en ce jour, mais même, vous le savez bien, par le biais de la technologie. Dans le Jura, il m'arrivait de rencontrer des grands-parents me disant que la veille, ils étaient sur Skype avec leurs petits-enfants à l'autre bout du monde. J'imagine que cela doit être à peu près la même chose en Touraine. Mais dès l'origine, l'homme n'a pas seulement cherché à rencontrer d'autres hommes, l'homme a aussi essayé de comprendre le monde dans lequel il vivait, la nature qui l'entourait. Il a voulu, dès les origines, rencontrer ce qui pouvait être à l'origine du monde. Ainsi, les premiers hommes ont-ils pensé que l'origine de la vie était dans la nature elle-même, et ils ont même adoré tel élément de la nature. Et vous l'évoquiez, monsieur le curé doyen, je crois que saint Martin lui-même s'est attaqué à certains poteaux sacrés, à certains arbres que l'on identifiait avec des divinités. Plus encore, et peu à peu, les hommes ont compris que s'il y a la nature, sa beauté, sa grandeur, celui ou ce qui est à l'origine de cette réalité ne se confond pas avec elle. Et c'est la raison pour laquelle les hommes, à un moment donné dans l'histoire, ont commencé à construire des temples. Peut-être ne le savez-vous pas, mais la racine du mot « temple » est la même racine que le mot « temps », compter le temps, c'est-à-dire ce qui permet de séparer les événements. Et le temple, donc, était le lieu où on se séparait de la vie sociale, le lieu où on se séparait même de la nature pour bien montrer que Dieu n'était pas la nature et pour pouvoir alors rencontrer les dieux, les divinités, comme en Grèce, en Égypte et dans tout le Moyen-Orient, mais aussi sur les cinq continents. Il y a près de 3000 ans, en Orient, un homme, Abraham, va faire une autre expérience. Il ne va pas chercher à rencontrer les dieux. À un moment de l'histoire, Dieu, ou celui qui va se révéler comme tel, va venir le rencontrer. Il va venir vers lui, il va venir le rencontrer et lui proposer de faire alliance avec lui, de constituer à partir de lui un peuple auquel il va se révéler. Et ce que Dieu va révéler à l'homme, par Abraham, par le peuple hébreu qui va se constituer autour de lui, c'est qu'il est le seul vrai Dieu, que les autres réalités, les divinités, ne sont que des projections que l'homme a opérées dans le temps. Cette histoire du Dieu unique qui se révèle, qui rentre dans l'histoire, qui rencontre l'homme, nous la trouvons, cette histoire, dans ce que nous appelons la Bible. Dieu vient rencontrer l'homme, il vient le rencontrer pour lui parler, et désormais c'est pourquoi il n'y aura plus qu'un seul lieu, qu'un seul temple à Jérusalem, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu habite désormais ce temple où on peut le rencontrer, mais sans le voir. Car ce Dieu, on ne met pas la main sur lui, on ne le manipule pas, il est infiniment libre, infiniment grand, et s'il veut habiter au milieu des siens pour rencontrer son peuple sans cesse, on le rencontre dans la confiance et dans la foi. Dans l'Ancien Testament, donc, Dieu est venu rencontrer l'homme. Il est venu habiter, se rendre présent dans le temple de Jérusalem. Mais Dieu, par les prophètes, et en particulier par le prophète Malachie, notre première lecture, annonce qu'un messager va venir en son nom dans le temple, qui va venir tout renouveler. Oui, la rencontre de Dieu va être transformée. Cette rencontre de Dieu va être transformée par la venue de Jésus. Jésus, nous l'avons entendu à l'instant dans l'Évangile, est venu dans le temple amené par ses parents juste après sa naissance, selon la tradition juive, pour être présenté. Et le vieillard Siméon et la prophétesse Anne reconnaissent en lui ce messager envoyé par Dieu pour tout renouveler. Car vous le savez, si Jésus est venu enfant, bébé, dans le temple, il y reviendra un jour pour faire quelque chose d'étonnant et même de provocateur. Il chassera les vendeurs du temple. Il chassera les vendeurs du temple et pour expliquer le sens de son geste, il dira « Vous avez fait de la maison de mon père, de la maison de prière de mon père, une caverne de bandits. » Et lorsqu'on lui demandera « Pourquoi fais-tu cela et quelle autorité as-tu pour faire cela ?» il répondra « Détruisez ce temple et moi en 3 jours je le relèverai. » Une allusion mystérieuse à ce que Jésus allait vivre, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Jésus, parlant du temple, parle désormais de lui. Par cette parole, Jésus annonce que le temple, ce lieu mis à part, ce lieu de la rencontre avec Dieu, va être totalement transformé. Par Jésus, en Jésus, le temple, désormais, ne va plus être un bâtiment en pierre ou en bois. Le temple, le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme, n'est plus désormais un lieu, un endroit, un édifice. Le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme, c'est désormais Jésus lui-même, dans sa personne. Jésus est le temple nouveau. La rencontre peut avoir lieu avec Dieu par lui, parce que Jésus, étant homme comme nous, mais étant aussi Dieu lui-même, il est à la fois du côté de Dieu et du côté des hommes, et c'est par lui, qui est comme le pont entre Dieu et nous, que la rencontre définitive, la vraie rencontre entre Dieu et l'homme peut se faire. Et tous ceux qui accepteront de suivre Jésus, de recevoir sa vie, participeront à ce renouvellement, à cette transformation. Frères et sœurs, 2000 ans après, c'est ce mystère que nous vivons nous-mêmes aujourd'hui dans cette église en ce dimanche ici à Chinon. Bien entendu, nous nous retrouvons dans des chapelles, dans des églises, des cathédrales pour prier et en particulier dans cette magnifique église ici. Nous nous retrouvons, oui, toujours dans des édifices de pierre, de bois pour prier et louer Dieu, mais ces bâtiments existent parce qu'ils sont pratiques. Bien sûr, nous sommes un peu au chaud et à l'abri. Il nous aide à prier, il nous aide à vivre la rencontre avec Dieu. Mais cette rencontre peut d'abord avoir lieu, et elle peut avoir lieu désormais n'importe où. Le lieu n'a plus d'importance. Depuis que nous avons mis nos pas dans ceux de Jésus, qui est le temple définitif, vrai Dieu et vrai homme, depuis le jour de notre baptême où nous avons reçu la vie de Jésus en nous, la vie de Dieu est désormais en nous au plus intime. Dieu a fait sa demeure en nous. Il habite en nous. Ce qui fera un jour dire à l'apôtre saint Paul, « Ne savez-vous pas, vous, que vous êtes des chrétiens, oui, mais que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Nous sommes des personnes habitées. Dieu a fait sa demeure en nous. Chacun et chacune d'entre nous, par le baptême, par la confirmation, est désormais un temple vivant, et chacun d'entre nous peut donc rencontrer Dieu quand il le veut au fond de son cœur où Dieu demeure. Pour cela, bien évidemment, encore faut-il un tout petit peu entretenir ce temple. Si cette église n'était pas entretenue, si elle n'était pas chauffée, éclairée et rangée, nous n'y viendrions pas, nous n'y viendrions plus. Alors oui, il nous faut entretenir le temple que nous sommes par le baptême. Un temple, on y fait un peu de ménage, on l'éclaire, on l'entretient. le temple de notre cœur. Nous pouvons y faire le ménage en chassant le mal, les mauvaises pensées, nos mauvaises tendances. Nous pouvons éclairer ce temple, pas seulement avec des bougies extérieures, mais avec la lumière intérieure de notre prière, de notre réflexion sur la foi. Et nous pouvons l'entretenir, surtout en nous y rendant souvent, chaque jour, en allant au plus intime de nous-mêmes où Dieu est présent et il nous parle à sa manière. Pourquoi faire cela? Pourquoi rencontrer ainsi Jésus? Parce que, peut-être est-il bon de le rappeler, et j'arrive, rassurez-vous, sur la fin de ce que j'ai à vous dire, parce que le pape François nous rappelle quelque chose de simple, que tout le monde peut expérimenter, je le cite, « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » De ceux qui rencontrent Jésus. Si nous rencontrons Jésus, et le plus souvent dans notre temple intérieur, dans notre cœur, si nous méditons l'Évangile pour mieux le connaître et mieux le trouver, si nous le prions pour être dans une intimité avec lui, nous recevons et de plus en plus son Esprit Saint, alors la joie remplit notre cœur. Et cela nous donne alors, et c'est le grand secret de la vie chrétienne, une force. Cela nous donne des lumières, cela nous aide à traverser la vie, cela nous donne et nous permet de continuer à grandir dans l'existence malgré le fait qu'être chrétien ne nous épargne pas des problématiques de la vie de chaque homme et de chaque femme. Oui, mais plus encore, le pape François nous dit, si nous vivons ainsi comme temple de Dieu, si nous sommes habités par la joie du Seigneur, alors cette joie, nous avons envie de la partager. Car personne ne peut garder la joie pour lui égoïstement. À quel titre le ferions-nous d'abord? Et donc cela veut dire que si cette joie est dans notre cœur, nous avons le désir de la partager avec d'autres, de permettre à d'autres de la goûter, de permettre à d'autres d'avoir la chance d'en vivre. Comme le disait un archevêque théologien que j'ai longtemps servi, il faut bien comprendre une chose, être chrétien, ce n'est pas un ennui de plus dans la vie. Alors il le disait plus brutalement, je vous le livre comme il le disait. Il disait, être chrétien, ce n'est pas un emmerdement de plus dans l'existence. Être chrétien, si nous l'avons compris, c'est une chance. C'est une chance inouïe. C'est la chance d'avoir Dieu qui habite en nous, qui donne sens à notre existence et qui nous permet de la traverser dans la lumière et dans la joie. Et ceux qui vivent cette joie, ceux qui vivent comme temple de Dieu vivant, ceux qui deviennent ainsi les témoins de cette joie sont les disciples missionnaires, les évangélisateurs que le monde attend comme Anne et Siméon. Alors, frères et sœurs, vraiment en ce jour, vraiment, réjouissons-nous en cette fête de la présentation. L'homme, pour rencontrer Dieu, a bâti des temples. Dieu nous a envoyé Jésus, le temple nouveau. En étant baptisés, nous devenons, nous, les temples vivants, et nous sommes le temple de l'Église qui témoigne de lui dans le monde, avant un jour de rencontrer définitivement ce Jésus, là où nous assure l'Écriture, il n'y a plus de temple, le ciel, parce que Dieu sera tout en tous. Amen.